première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Au musée de Louvain-la-Neuve, jusqu'au fin janvier. Bienvenue. Pourquoi l'appareil photo que vous portez, Charlie?
Mais pour documenter ce qu'on fait, c'est, voilà, on est en pleine aventure à construire un bateau. Tous ensemble, voilà, on veut raconter ce bateau retourné des migrants. Et, voilà, on voudrait témoigner de ce qui se passe pour l'instant. On peut parler de génocide qu'on laisse faire, et voire même qu'on subsidie. Et voilà, c'est tout ça qu'on veut raconter, tout ce pourquoi on est là.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez, on s'occupe.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture,
authentique.
Le monde invisible.
Vous dites génocide?
C'est pas forcément moi qui le dis, c'est les faits qui le disent. On est face à une catastrophe incroyable. Et voilà, les baleines en sont les témoins. Donc là, ce grand bateau qu'on est en train de construire, finalement, raconte cette espèce de bateau qui va dans l'autre monde, de retourner. Un bateau des morts, une carcasse d'animal, de baleine.
Au musée de Louvain-la-Neuve, jusqu'au fin janvier. Bienvenue. Exposition événement, témoignage d'artistes sur la question migratoire. Avec Charlie Caisse, Anne Kéringen, Elisa de Jacquier, Martin van der Meel, Najib Sheradi, Manuela de Terravant, Sophie Soporosi et David Bartolomeo. Lecture texte, Marie-Laure Franken.
Et géographiquement, c'est désert du Sahara, Algérie. Désert. La vie, que dis-tu? Toi qui décides quand tu viens et quand tu t'en vas. Pourquoi es-tu seule qui donne le bonheur quand tu es là et sème le malheur après toi? Apprends-moi donc à te connaître. Je veux mieux te connaître avant ton départ.
Anne Kéringen, nous parlons dans le musée, on entend les voix des guides, et vous ouvrez ce musée que vous dirigez a une pratique qui, à mes yeux, aurait appartenu à l'université du Moyen-Âge.
Oui, des personnes, certainement, des personnes qui sont en demande d'apprentissage et qui peuvent être intégrées à un cycle de cours, qui sont aussi parrainés. Alors la pensée, c'est évidemment le propre de l'université, c'est quand même de penser ce qui est en train de se passer, hein, cette tragédie dans la mer Méditerranée dont nous sommes témoins sur le rivage.
Et quelqu'un a évoqué l'Arche de Noé.
Il y a ce rêve de ce bateau qui serait en fait la planète Terre et qui porterait tout le monde, qui sauverait tout le monde. Voilà, tout le monde a le droit de vivre tranquillement, on est tous là pour vivre la même expérience. Donc il y a évidemment ce rêve de... peut-être d'une nouvelle conscience, qu'on voit la Terre comme une seule embarcation. On ne peut pas laisser des fuites d'eau dans la cale et faire la fête sur le pont. C'est à nous de travailler la guérison et la restauration du passé pour un monde meilleur, ce qu'on souhaite à nos enfants.
Bienvenue. Par Thierry Chenicaud. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Elisa de Jacquet. Là, maintenant, on va plutôt parler de migrants, de cette route de migrants entre le sud et le nord. Voilà, c'est quelque chose qui, lui, en tant qu'artiste, le touche très 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 fort, mais pas seulement lui. Hein. C'est quelque chose avec lequel il a insisté dès le départ. Donc c'est lui qui a été notre premier contact pour cette exposition Bienvenue, avec sa complice Manuela de Tervaren, qui elle est plutôt réalisatrice.
Voilà, Charlie a été... on lui a demandé de faire l'exposition ici, sur le thème de la migration, et Charlie a dit, moi je veux que ce soit une exposition collective. Voilà, et donc comme nous travaillons sur des films ensemble, je suis réalisatrice, donc on travaille souvent en co-réalisation, il m'a dit, est-ce que toi ça t'intéresse de travailler, voilà, de m'aider à monter l'exposition.
Et en fait ils ont été touchés par ces histoires de ces migrants qui arrivaient sur les plages près du détroit de Gibraltar et dont en fait l'Europe ne veut pas. Et donc lui a été fort touché par ça et il a voulu parler de tout ça. Et ici, il y a un collectif, où, alors il n'aime pas ce mot-là, il utilise plutôt le mot d'ensemble, d'artistes qui sont touchés par ces questions-là, que ce soit des artistes venant d'Afrique ou que ce soit des artistes venant d'Europe. Et donc ils ont voulu ici s'assembler, et donc on a près de 47 artistes qui vont intervenir dans cette exposition.
Il a demandé également à Youssef, qui habite au Maroc, qui est un artiste avec qui il travaille depuis toujours. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, petit à petit, voilà, il y a d'autres artistes qui sont venus se greffer. Et là, on en est à 47 artistes. Donc, c'est devenu une immense boule.
Alors, pour le musée, c'est quand même drôlement questionnant, parce que ça veut dire qu'on fait rentrer, à travers, bien sûr, une exposition temporaire. Ce n'est pas du tout ce qui se passe ici, dans notre musée, avec un accrochage permanent. Mais avec cette exposition temporaire, on fait rentrer aussi cette pensée, ce manifeste même que Duchamp a évidemment porté en disant voilà, l'œuvre d'art n'est pas cette pièce unique et sacrée qui est elle-même portée par un musée qui la sacralise, mais elle est la vie, elle rentre de la vie. Ces matières sont emparées par les artistes, sont détournées, une pratique presque archaïque aussi, qui précède la forme. Et puis, il y a quelque chose qui rentre dans le langage, qui est un langage artistique et plastique, et qui va venir toucher l'émotion, qui va venir toucher notre part d'humanité.
Au départ, ça devait être juste une exposition, mais du coup, il y a eu des tables rondes. Moi, je m'occupe de la programmation du cinéma, donc ce sont que des films d'artistes qu'on connaît. Ça a pris de plus en plus d'ampleur et on a un peu dépassé parce que voilà, il va y avoir des performances, des concerts, des tables rondes, des films, enfin, c'est devenu vraiment presque un festival en fait.
Et donc on n'est pas dans un débat politique, mais c'est hautement politique évidemment, c'est très très porté, très chargé. Mais ici, on ne va pas résoudre la question migratoire, on ne va pas avoir des slogans, on ne va pas avoir des directives, des procédures d'ici. Non, on va simplement, mais c'est énorme aussi, énorme, être voilà, des humains pleins d'émotions, de réflexions. On va utiliser aussi notre raison et on va venir nous toucher dans cette partie humaine. À travers de la poésie aussi, parce qu'il y a énormément de poésie en fait dans cette exposition. Il y a des toutes petites choses, des petits moments comme ça. Et on sait aussi que tous ces objets, ils ont eu un vécu humain, en fait, avant d'arriver ici. Donc c'est très fort.
Elisa de Jacques.
Une exposition faite avec aussi des matériaux dont plus personne ne veut, des matériaux de récupération. Et ils vont transformer tout ça avec leur propre langage, leur propre sensibilité, éveiller les consciences, secouer les gens, mais aussi au travers soit des performances ou des installations, avec beaucoup de poésie, beaucoup de courage aussi, et quelquefois un peu de provocation. Mais voilà, l'idée c'est de vraiment réveiller les consciences, bousculer les gens, et que l'on prenne tous bien conscience de ce qui est en train de se dérouler là, au-delà de ce que les médias peuvent véhiculer.
Ici, on est dans le museau. Et pour ça, le mieux, ce serait d'en discuter avec Youssef, qui est un petit peu la personne qui est au centre de l'organisation pour voilà, essayer de coordonner un peu comme une partition de musique se mettrait en place.
Je vais vous faire rencontrer déjà Martin van der Beelen. Lui est producteur, parce qu'il y a aussi tout un volet de l'exposition qui sont des projections, en fait, soit des films d'artistes ou des films documentaires. Parce que dans le cadre de cette exposition, il y a trois tables rondes aussi autour de la migration. La migration au Maroc, la migration en Belgique. Et donc voilà, on a vraiment trois tables rondes. Et donc voilà, Martin van der Beelen.
C'est une organisation horizontale. C'est comme un voyage. Et puis avant le voyage, il y a toute une préparation. C'est un work in progress. Donc on avance et c'est le chemin qui est essentiel. Des gens qui viennent d'un peu partout. Des horizons, des parcours de vie différents. Et chacun vient avec un témoignage. Et ce témoignage, il converge vers cette idée de bienvenue. On est un petit peu à rebousse-poil par rapport à ce qui est en train de se passer ici au niveau politique. Donc pendant que les politiciens pataugent en essayant de découvrir peut-être une politique qui conviendrait le mieux à son électorat, ici c'est plutôt favoriser la rencontre. Et permettre aux gens de se rendre compte que l'essentiel, c'est à travers l'humain, et c'est pas les frontières.
Anne Kerringeon, de décrire l'affiche.
C'est un cercle de chaussures qui ont été donc ramassées dans le pourtour méditerranéen. Et donc, ils forment une forme qui est un cercle. Le cercle est une forme universelle. C'est aussi des pas. Hein. Donc, on marche, on peut marcher en rond, on n'a pas de solution. Et alors, il y a ce passage d'un rouge éclatant qui, en fait, présente la carte de la Belgique, mais qui est retournée. Et alors, les mots « bienvenue » et le « UE », qui, évidemment, évoque l'Union européenne en lettres blanches et dans le titre de l'exposition, qui sont, évidemment, en majuscules. Donc, sont-ils les bienvenus, voilà, en Union européenne? Quels sont tous ces pas qui doivent être marchés, qui ont été foulés, tous ces sols, cette errance, cette marche à travers tous ces pays européens. Voilà, ça c'est l'affiche. Oui, elle est très forte, hein. Elle est très très forte, elle est percutante. Et elle est très plastique, je trouve. Elle a une belle présence, visuelle.
Dis-moi, ce jour-là, seras-tu en colère? Me feras-tu souffrir? Vas-tu me torturer pour toutes les fois où je n'ai pas su profiter de toi?
Sophie.
Saporosi. Donc je suis une artiste invitée par Charlie Case.
Et pour toutes les fois où je t'ai maudite? Peut-être était-ce de ma faute, ou étais-je juste victime des maux de ce monde? La vie, pourras-tu me comprendre, ou te vengeras-tu simplement de moi? Aurais-je eu raison ou tort de croire en toi? Me diras-tu enfin pourquoi tu m'as offert un peu de ton doux souffle? Et si dans ce maudit désert que je traverse, on se faisait la promesse de se pardonner, toi et moi?
Il m'a invité par rapport à une performance que j'ai faite le 30 mars 2018. J'ai sacrifié mes cheveux devant le CGRA, donc le Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides, en posant au préalable une centaine de têtes à taille humaine sur le terre-plein pendant qu'un ami jouait des requiem sur Casio. Cet ami, c'est Eric Bribosia, quand même, un grand pianiste. Et donc, en fait, j'étais psychiatre pendant 10 ans. J'ai beaucoup travaillé avec les jeunes, je suis psychiatre infanto-juvénile au départ, photographe par ailleurs. Et là, je pense que l'année passée, pour moi, la situation devenant tellement grave, étant depuis 2015 devenue complètement artiste, et ne faisant plus que ça, je me suis dit qu'il fallait poser un geste vraiment important, en fait. Et pourquoi le CGRA ? Parce que le CGRA, c'est le lieu, en fait, où se trouvent les juges. On n'est plus dans le niveau administratif de l'Office national des étrangers, on est au niveau judiciaire. Voilà. Et là, j'ai l'impression qu'en ce moment, le pouvoir politique a pris le pas sur le pouvoir judiciaire. Et que le pouvoir judiciaire, qu'il soit au niveau national ou international, ne joue plus son rôle et ne contrebalance plus, quelque part, tous les événements qui sont en train de se produire. Là, on est dans quelque chose où la dérive fait qu'on enferme des gens qui sauvent d'autres gens en haute montagne, en mer, ici en Belgique, voilà. Donc on est vraiment arrivé à un point qui nous rappelle très très fortement 1940, je pourrais dire 1936, parce que ça a quand même commencé à ce moment-là, d'accord ? Mais donc on a l'impression, ou moi j'ai l'impression en tout cas, que tout le savoir produit pendant le XXe siècle est passé à la trappe. On oublie complètement les écrivains, Primo Levi, pour ne pas le citer, je ne sais pas, Jorge Semprún, enfin, il y a tellement de gens qu'on pourrait citer, là, dans ma performance, je citais après Hannah Arendt, et je racontais l'histoire d'une jeune, en fait, qui est arrivée en Belgique, qui était mineure non accompagnée, donc, hein. Le jour de ses 18 ans, elle n'avait toujours pas reçu ses papiers, ils l'ont simplement basculé vers la section adulte, ça signifie plus de prise en charge particulière pour une jeune qui était dans un état traumatique tellement avancé que moi, à un moment donné, je ne savais plus quoi faire avec elle. Je lui ai dit, écoute, maintenant, je te mets à l'hôpital, je n'ai plus d'autre solution. Enfin, c'est la seule manière pour moi de te protéger, en fait, de ce pouvoir qui ne joue pas son rôle.
Quand vous parlez d'université, je songe au XIIe siècle, à l'heure fondation de ces universités à Paris, puis après à Louvain, qui étaient quand même des poches de liberté, n'est-ce pas, par rapport au contexte. Donc nous avons toujours la même logique.
Oui, je pense que oui, là il y a quelque chose qui perdure et qui continue en effet. Et l'université est vraiment un lieu où on peut poser des questions, on peut en tout cas proposer des regards différents. Comparer, analyser, rechercher, proposer de nouvelles choses. Et oui, enfin, vraiment, développer cet esprit critique, pour moi, c'est une des premières choses qu'on a toujours enseigné, c'est développer l'esprit critique. Et je pense que ben, le musée, en tant que musée universitaire, a ce rôle-là. Il a un rôle d'acteur dans la société. Et c'est une belle tradition.
Donc voilà, ici je voulais aussi parler à un moment donné d'un jeune garçon. J'ai travaillé en France et ce jeune garçon, lui, il avait 10 ans. Il était pupille de l'État depuis qu'il avait 15 mois. L'État français ne lui avait jamais donné des papiers. Donc cet enfant n'était jamais né. Personne n'avait déclaré sa naissance et personne n'avait jugé bon de lui donner des papiers. Depuis qu'il consultait des pédopsychiatres, chaque pédopsychiatre disait « Mais enfin, monsieur le juge, il faudrait lui donner des papiers quand même ». Comment pouvez-vous imaginer une vie réelle dans notre monde contemporain sans papier ? C'est absolument impossible. Vous n'avez pas de travail, vous ne pouvez pas ouvrir un compte en banque, vous ne pouvez absolument rien faire. Donc ce jeune était devenu progressivement psychotique, de plus en plus psychotique. Il avait implosé intérieurement. Dans son cas, c'était plutôt catatonique, hein, ce qui, pour l'extérieur, est tranquille. Mais évidemment, Ces conséquences-là peuvent se produire aussi vers l'extérieur. Alors, il y a plein de choses qui font explosion et qui ravagent. Mais il me semble quand même que pour des jeunes, leur donner une inscription dans le réel, ça passe par là. Les papiers, l'intégration à minima, enfin, c'est ça. Une possibilité de marcher dans le civil, quoi.
Chacun de ces objets raconte une histoire.
Sophie Saporosi.
De l'autre côté, il y a une pièce qui est un peu la pièce maîtresse. Et ça, c'est avec Charlie Case. Ça fait des semaines et des semaines qu'une équipe d'artistes, artisans sont à l'œuvre. Toutes les pièces sont faites à partir de matériaux recyclés. Et le résultat, c'est quelque chose qui est entre Alors, on ne sait pas très bien, est-ce que c'est... ce sont les côtes d'un migrant échoué sur une plage, ou bien est-ce que ce sont les cartilages d'une baleine, ou bien on peut imaginer beaucoup de choses, même l'arche de Noé.
Donc on a mis dans une de nos deux salles d'exposition temporaire une grande tente qui a été réalisée par une des artistes, Salima, qui est d'origine marocaine et qui a cousu une tente spécialement pour cet ensemble d'artistes qui se fait appeler alors Sine Angulo, et donc est une tente nomade. Le lieu qui s'appelle sous cette tente, ils l'appellent eux-mêmes le museau. Donc en fait, ces artistes se retrouvent une fois par an dans le cromlech de Mzora, au Maroc, si je ne me trompe pas, pendant une quinzaine de jours. Ils vivent autour et dans cette tente et ils créent en fait des œuvres avec les objets qu'ils trouvent sur place. Et voilà, donc en fait, on est dans la tente du museau, qui est leur musée nomade. Et donc on a des grandes tentures noires avec des hublots, quelques aussi pans de tissu écru sur lesquels les artistes eux-mêmes ont dessiné. On retrouve voilà, des dessins de Aziz Amrani, on a aussi de Charlie Case, je pense. Et donc voilà, les artistes ont pris possession de ces tentes, l'ont décorée. Et ici, on a toute une série d'œuvres créées par les différents artistes qui sont mentionnés et qui participent à cette exposition. Et ce sont des petites installations faites de petites choses, de bouts de ficelle, de photos, de jouets, de morceaux de bois noircis dans le feu, de la terre ocre rouge. Et donc voilà, c'est des tapis aussi jonchent le sol. Et donc toute une série d'objets comme ça sont parsemés sous la tente. Et voilà, le visiteur rentre dans un univers très particulier, très poétique. Voilà.
Un peu théâtral aussi.
Oui, ça c'est une vraie théâtralisation, ça c'est certain. Oui, oui, tout à fait. On a l'impression d'avoir quelqu'un qui est assis dans un coin de la tente. On a, comme des petits décors de scène avec à chaque fois un petit socle avec toute une série d'objets qui prennent place, qui sont éclairés soit par les hublots, soit par des petits spots qui mettent en valeur les objets. Et on a vraiment une grande variété dans les matériaux, les formes. Beaucoup d'objets sont vraiment issus de la nature et présentés tels quels. Et puis d'autres objets sont alors plutôt façonnés. Et ça donne un ensemble à la fois très très différent et puis aussi très cohérent dans la manière de traiter les choses, je trouve.
Revenir peut-être à l'université, donc la thématique de l'année, c'est habiter le monde. C'est la thématique donc de notre saison culturelle, donc qui est aussi reliée par UCL Culture avec son choix de l'artiste en résidence. Et donc notre programmation de cette exposition Bienvenue rentre dans cette thématique-là, évidemment.
Derrière ce que vous dites, on entend des voix. Quelles sont ces voix et que disent-elles ?
Donc ce sont des artistes qui sont en train de se concerter.
L'art, c'est vraiment une possibilité de penser autrement ce qui est en train de se passer à un niveau de notre vivre ensemble et de notre société. Bon, Léonard de Vinci le disait déjà, hein, 16e siècle, en disant « l'œuvre d'art, c'est une matière à penser ». En fait, ça nous pousse à penser. Et c'est pas que de la matière, mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils utilisent de la matière pour nous pousser à penser. Et c'est des choses tellement pauvres, en fait. C'est des choses qui sont ramassées sur ce bord méditerranéen. C'est des textiles, c'est des vêtements qui ont été portés, c'est des chaussures, c'est des bouts de bois, et qui sont détournés, transformés, un peu comme dans ce mouvement de l'Arte Povera en Italie, dans les années 60, où l'art avait une fonction contestataire,
Anne Kerenjean,
permettait de penser les choses, mais avec du résiduel, presque du rejet. Et
vous dites Italie, je pense Allemagne, avec la figure d'un Joseph Beuys,
oui,
activiste, n'est-ce pas ?
Bien sûr, oui, oui. On est dans quelque chose de cela.
Enfin, il y en a un, par exemple, il est camerounais, il est au centre de plusieurs projets, même si tout son dossier est en règle, selon... on va dire les procédures Schengen, le dossier est bloqué. Donc là, on est en train encore en dernière minute de voir si cette personne peut venir. Pour certaines autres personnes, on sait qu'ils ne peuvent pas venir, donc ils sont représentés par leurs œuvres. Il y aura des vidéos, ils seront en téléconférence, et donc le public pourra parler avec eux.
Et votre rôle à vous ? Et rappelez-moi votre nom ?
Martin van der Meulen. Alors, je suis un des membres de la Nacelle, qui est une fondation nomade. Et cette fondation nomade, elle va dans le sens de cette idée que le monde est un monde en création perpétuelle. Et nous essayons, à travers la culture, la rencontre humaine et aussi même notre rapport au monde, d'essayer de revisiter les choses, remettre l'humain au cœur de la création, mais aussi en relation avec son environnement.
Najib Sheradi.
C'est l'idée que, à travers la création artistique, on peut dépasser les frontières.
Et donc, on était invité par une organisation là-bas pour vraiment faire quelque chose qui a un rapport avec tout ça. Et donc, là, il y a toutes des écritures, toutes des lignes, des traces, des points, des brûlures, des beaucoup de choses. Ça veut dire...
Vous dites des choses très dures. Vous dites que l'Europe ne veut pas. Vous dites... Personne. Vous dites les médias, mais il y a des gens qui veulent.
Bien sûr. Et ils font partie de ces mouvements-là. Et heureusement que ces gens sont là et ils sont là pour aider. Ils accueillent ces migrants, ils les aident. Le collectif qui tourne autour du parc à Bruxelles en est un très 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 bon exemple. Voilà, ils se raccrochent à ce type de mouvement-là, solidaire, mais avec leur propre langage aussi. Puis il y a des artistes ici qui sont des performeurs, qui ont fait des performances au parc Maximilien et qui sont là, qui veulent donner un peu de leur temps et de leur travail pour voilà, secouer les mentalités. Et en plus, voilà, ici, c'est l'opportunité, dans un musée universitaire qui a cette mission, finalement, de développer l'esprit critique, poser des questions, même des questions qui dérangent. Et bien ici, c'est finalement une opportunité de rassembler 47 voix, mais pour toutes les voix qui ne peuvent pas parler et qui vivent des drames, pour l'instant, autour du bassin méditerranéen.
Najib Sheradi.
Des espaces où il y a vraiment des traces comme ça laissées par les anciens, par les autres gens, par ceux qui nous ont précédés avant nous. Peut-être c'est aussi une réincarnation comme ça dans le temps et dans l'espace, sans prendre le sens vraiment de la réincarnation. Mais c'est vraiment quelque chose d'immatériel aussi. C'est ça ce qu'on voulait vraiment présenter ici dans cette igloo. Si on peut l'appeler comme ça, c'est un igloo comme ça, à la Mongolie. C'est ça, et donc c'est ce qu'on a essayé de faire, peut-être de réaliser qu'il y a une vie qui est passée ici, qui a laissé ses traces, et son souffle aussi, chose qui est très intéressante.
La migration, ça n'est plus que de la migration économique ou suite à un conflit, etc. Maintenant, on a des migrants climatiques. On en aura de plus en plus, je pense.
Je suis ici aussi en tant qu'artiste qui était invité aussi à Masdazil. C'est là où cette tente aussi était réalisée et d'autres choses aussi. Je suis ici pour participer aussi, invité par Charlie, qui est un ami, à cette rencontre aussi, à cet événement. Avant, moi j'ai pensé beaucoup, j'ai dit, à vrai dire, on est aussi étranger chez soi. Comme disait un poète, un penseur arabe du Xe siècle, il a dit « Le plus lointain est celui qui est loin dans sa proximité, le plus étrange est celui qui est étranger dans son étrangeté. » C'est-à-dire qu'on peut être aussi étranger chez soi. Nous sommes tous des étrangers, en fin de compte. Personne ne peut déterminer ou dire que cette terre lui appartient. Où on ne peut pas dire vraiment que je dois avoir des frontières pour passer de l'autre côté ou l'autre aussi, pour passer chez moi, doit avoir des frontières. Les frontières doivent être libres et la personne aussi doit être libre de circuler, de faire des échanges. Je pense, si j'ai plus de possibilités, je peux partager avec l'autre. Et l'autre aussi, il va partager avec moi, peut-être, et comme je dis toujours, sur le côté immatériel, quelque chose qui est très important. On n'est pas là uniquement pour le matérialisme de cette vie, mais on est aussi dans le sens de l'immatériel. On ne pense à ça que à partir de la mort.
Des bateaux, des pirogues qui voyagent, des camions, oui, enfin voilà, il y a un peu tout, mais en effet, le mouvement et le voyage sont vraiment dans le thème. De même que ici, ces ailes ici qui sont couvertes de chocolat blanc, qui font un peu référence aux ailes d'Icare, et donc de ce personnage qui veut échapper à sa condition et qui finit par se brûler les ailes. Hein.
La mort nous fait toujours rappeler cette immatérialité de notre existence sur cette terre, mais aussi cette étrangeté, à vrai dire, qui est ancrée en nous, qui est ancrée dans l'espace et dans le temps. Donc, partager, c'est quelque chose de très important.
46 artistes ?
Il y en a bien plus.
Sur les 15.
On est le nombre de ceux qu'on rencontre, il n'y a pas de collectif, on se promène et puis chacun qui a envie de rentrer dans l'aventure, qui a envie de témoigner pour la même cause, est bienvenu, parce qu'il s'agit de ça, c'est bienvenu. On essaye de pratiquer le mot et le vivre, et puis voilà, sur ce bateau, il y a 46 aujourd'hui et les 200, 300 avec lesquels on a collaboré ces 10 dernières années, puisque ça fait 10 ans qu'on bataille, mais qu'on réfléchit le sujet de la migration avec des artistes africains et européens.
Ouvrir aussi des possibilités pour que l'autre aussi ait des possibilités pour vivre, pour améliorer, pour développer, pour beaucoup de choses, que ce soit sur le plan social, culturel, politique, économique. C'est ça ce que je pense réellement. Je suis ici avec une installation qui raconte pas la situation des gens ou des réfugiés qui veulent vraiment venir ici en Europe, peut-être, pour rencontrer des gens qui rêvaient aussi d'être parmi ces gens, de partager aussi des choses avec ces gens. Je parle de cet espoir renversé, de cet rêve, à vrai dire, échoué dans cette mer qui nous rassemble, à vrai dire, mais aussi qui n'est pas douce et n'est pas docile comme on la voit de loin, mais elle est dangereuse. Il peut être vraiment agressif, c'est un danger que les gens mènent, c'est un voyage vers la mort. C'est le risque. Et donc, ne laissons pas ces gens faire ce geste et essayons de trouver des solutions ensemble pour se taire. Ils nous appartiennent à tous.
Parce que tu finiras un jour par me quitter. Et ce jour, tu laisseras le deuil dans le cœur de ceux à travers qui tu es venu en moi. Parce que moi, je n'ai en réalité jamais su profiter de ton doux souffle que tu me procurais nuit et jour.
Et depuis 10 ans, que voyez-vous ?
Le bateau continue à couler. Et voilà, on essaye de crier notre désaccord avec la politique migratoire européenne.
Et vous me montrez Charlie Case.
Et c'est le nid de David qu'on a amené au musée, qui va être tout en haut du musée.
Parce que c'est vrai que le nid, c'est l'accueil, Mais c'est pas facile d'y rentrer dans un nid, on se rend compte. Surtout quand on n'a pas d'aile, d'en sortir, c'est pas facile non plus, finalement. On se rend compte. Qu'un nid, c'est accueillant, mais c'est... Où c'est qu'on le met? Comment on y va? Qu'est-ce qu'on pond dedans?
Les oiseaux n'ont pas de passeport. Ils ont le droit de circuler.
Libre à chacun d'en faire ce qu'il veut, d'y mettre son imaginaire dedans. Et même fonctionnellement, moi j'ai envie d'y mettre du terreau pour faire pousser des tomates et qu'on fasse repartir des plantes dedans. Que l'humain puisse avoir sa place, mais qu'il soit obligé de faire avec. C'est-à-dire que sans arriver et tout exploser pour prendre le plus de place possible. Bien au contraire. Et il y a aussi cette notion de production. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est si important de venir produire une œuvre d'art pour le champ artistique? Bien sûr que c'est bien, mais il y a quand même des choses à défendre beaucoup plus importantes. Et on n'a plus le temps de faire comme ça, on fait des expos, des machins, des bidules, ça fait plaisir à tout le monde. Mais on n'en est plus là. C'est comment vraiment on devient actif au travers de ça. Vraiment. Et le rôle de l'artiste aujourd'hui, c'est peut-être ça. Il s'est fait hacker par le business, complètement hacker par le business, la monstration, il faut être là, il faut être partout pour être un grand artiste. Non, quand on voit un Damien Hirst à la Biennale de Venise qui balance 50 millions d'euros pour faire une œuvre et qui donne pas une cacahuète à personne, à une association caritative, je ne sais quoi, c'est pas un artiste le mec. C'est pas un artiste. C'est dégueulasse de faire un truc pareil.
Commentons l'actualité, nous tentons aussi de vivre une nouvelle manière de partager et de fonctionner sans hiérarchie, avec l'idée que quand plusieurs personnes se rencontrent, il y a un tiers-lieu qui se met en place, un lieu commun qui devient le lieu de création commune. Voilà, nous expérimentons la rencontre, l'écoute, ce que nous devrions faire avec ces migrants qui viennent pleins d'énergie et chez nous. Voilà, rentrer dans un dialogue. Disons que cette exposition est une conversation.
C'est une notion, une philosophie, en fait, on pourrait dire post-anarchiste, mais l'anarchie dans le noble sens du terme, où chacun est acteur des choses. Il n'y a pas un pouvoir gouvernant et qui dit aux autres de qui fait quoi. Il y a une espèce de charte morale dans lequel on s'inscrit, et du coup, globalement, c'est essayer de repenser l'organisation telle qu'elle est, elle est considérée dans nos sociétés modernes. Donc la gouvernance horizontale, l'apprentissage de pair à pair, le do-it-yourself, le DIY, donc do-it-with-other, à savoir que le but du jeu, c'est que chacun retrouve de l'autonomie, donc en apprenant des autres, notamment des anciens, parce qu'on se rend compte que la connaissance est en train de se perdre. Et donc, en fait, voilà, c'est toute une philosophie qui permet d'être dans l'intégration de différentes strates sociales, différentes fonctions sociales, c'est-à-dire qu'on est tous apprenants, on a tous quelque chose à transmettre, qui qu'on soit et d'où qu'on vienne. C'est David Bartholoméo.
Je t'implore de ne pas me quitter dans ce désert qui me brûle les lèvres et me fend les pieds.
De dire mon nom, ça m'embête un peu, en fait. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on défend. Et notamment la signature collective, c'est hyper important parce qu'on rentre dans un... C'est pas un sujet, en fait, la migration. Le sujet qui me touche le plus, c'est l'anthropocène, donc la migration en fait partie. Mais c'est au-delà de ça, c'est de repenser les écosystèmes, en fait. Et si on regarde la nature, par exemple, les écosystèmes fonctionnent extrêmement bien. Par exemple, si on prend un massif corallien, tout fonctionne. Et si on pouvait justement reprendre ces modèles-là, parce qu'on est nature, on est humain, on est vivant en fait. Il n'y a pas le vivant humain, le vivant animal, le vivant végétal. C'est en fait, on est tous humains et sur la même corde sensible. Et en fait, c'est juste des équilibres à retrouver pour qu'on puisse gagner en harmonie, que chacun ait leur place, que nous, on puisse aller là-bas, que puisse venir. Et comment on fait ensemble? Et justement, comment la terre est un commun, l'air est un commun, l'eau est un commun, etc., etc. Donc comment on fait tous ensemble?
J'ai entendu de vous l'expression « j'ai sacrifié mes cheveux ».
Oui.
Sophie, ça part aussi.
Oui, c'est un sacrifice. Oui, oui, c'est avant tout un sacrifice.
Et concrètement ?
Concrètement, C'est-à-dire qu'il me semblait que ce geste, ça rappelait plein de choses, comment dire. Ça rappelait l'après-guerre, le moment où on a vraiment rasé la tête des femmes, les femmes qui avaient collaboré et les femmes aussi qui avaient été violées, hein, sans distinction en fait. Il y avait quelque chose comme ça où, voilà, ça rappelle le fait que là c'était plutôt pour les femmes, hein, c'est quand même très dangereux pour les femmes sur la route. Ça reste très dangereux pour les femmes au Congo. Donc là, on donne le prix Nobel à ce docteur et c'est magnifique et c'est très bien. Mais en même temps, ça cache absolument ou ça masque, hein, cette réalité qu'on ne parvient pas à endiguer et qui est là depuis des années. J'étais donc psychiatre auprès des migrants. Je n'aime pas ce mot. Ça fait partie pour moi des mots qui catégorise, voilà, il y a les migrants, les non-migrants, enfin, je ne sais pas, ça m'énerve un petit peu. Donc j'ai reçu beaucoup de femmes, en fait, d'origine étrangère, violées, abîmées. Voilà, ces femmes ne recevaient pas les papiers. J'ai rencontré une Guinéenne. Le système en Guinée est tellement fait pour broyer la femme dans son être, pour la réduire à une espèce d'utérus, voilà, qui va plus ou moins bien fonctionner, parce que... Et cette femme avait le sida, enfin, elle avait eu des traumatismes incroyables. La Belgique ne voulait rien savoir. Donc, pour moi, c'était sacrifié aussi pour ces femmes, quoi. Pour dire, ça suffit, enfin, arrêtons. Et c'est un sacrifice aussi dans le sens où... Mes cheveux, c'était quelque chose de très important pour moi. Je suis d'origine italienne, j'ai beaucoup de cheveux. Et après, le regard que les autres ont sur vous est très, très différent. Quand vous avez la tête rasée, il y a quelque chose qui se passe où tout à coup vous êtes à côté de la société. Vous n'êtes plus dedans, vous êtes à côté. Et les femmes d'abord se demandent qu'est-ce que vous avez fait, enfin, qu'est-ce qui vous arrive. Soit vous allez mourir, soit enfin, il vous est arrivé quelque chose de grave, vous prenez une position comme ça. Plus de cheveux, c'est plus de féminité quelque part. Enfin, voilà.
Et ici ? Au musée, elle, qu'allez-vous faire ?
Ben ici, en fait, je voudrais un petit peu mettre en lumière cette affaire d'incarnation qui demande qu'on légitime la personne. Et je voudrais un petit peu aussi dénoncer la brutalité de la fonction désincarnée, comme ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a mis en place des systèmes administratifs qui nous permettent d'empêcher de penser, c'est quoi la conséquence du geste. Donc, qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand ce juge-là me dit, à moi, pédopsychiatre, non, cet enfant va très bien, il n'a plus besoin de venir chez vous. Tout ça parce que je réclame de ce juge qu'elle prononce un jugement déclaratif de naissance qui lui donne des papiers. Donc, en fait, les places aussi sont inversées comme ça. Tout à coup, c'est le pédopsychiatre qui soigne plus, qui dit « mais il faut la justice ici, enfin hein, ». Donc, comment incarner la fonction ? Comment sentir, enfin, quelles seront les conséquences du geste ? Qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça, en fait ? Ben, quand vous faites ça, vous détruisez la vie de l'enfant. C'est aussi simple que ça, voilà. Alors, c'est un constat difficile à faire, mais malheureusement, il est là. Voilà. Et ici, je vais voir comment travailler sur cette dichotomie, quoi.
Et n'avez-vous pas l'impression que notre société est traversée par une peur, comme jamais ?
Oh, terrible. Comme jamais, je ne sais pas, parce qu'on l'a déjà eue, cette peur. On l'a déjà eue, des gens ont écrit là-dessus. Je relisais Henri Maldinet, in media vitae, hein, il a écrit deux textes qui sont très intéressants l'un et l'autre, enfin, l'un au début de cette période-là, et l'autre à la fin de sa vie à lui. Voilà, il faudrait pouvoir relire ces textes pour se rendre compte qu'en fait, rien n'est neuf. On revient à cette peur. Je veux dire, la nuit de cristal, c'est quoi ? Si ce n'est une grande peur énorme qui a mangé la société allemande à un moment donné. Hein, ils sont laissés tellement manger que les ogres sont sortis. Ouais. Les ogres sont en train de sortir aujourd'hui. Ils sont là parmi nous, je veux dire. J'ai vu encore des affiches presque anonymes, hein, très dangereuses donc, on est chez nous avec un drapeau belge. Qui est ce « on » enfin ? Moi, personnellement, je suis belgo-italienne et je me réclame de cette belgo-italianité. Hein. Et on oublie complètement aussi qui a fait le métro bruxellois. Ce sont les Arabes. Enfin, qui a travaillé dans les mines? Ce sont les Italiens, les Turcs, les Marocains, les Espagnols. Voilà. Donc, sans les étrangers aujourd'hui, où en serait le pays? Donc, remettons un petit peu de perspective. Là, on a le nez sur le guidon et on écrase les enfants sur la route, sans conséquence aucune. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, un tel événement aurait simplement provoqué la démission de la personne qui est en charge de cette affaire. Il n'y a plus personne qui prend ses responsabilités. La démission n'est jamais venue. La sanction de d'où, quand, comment, enfin, voilà. Hein. Donc on est retourné à quelque chose où il y a une toute-puissance qui semble contenir la peur, mais qui en fait la provoque. Et qui après nous tombera dessus. Et c'est bien le propos de vous et moi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le totalitarisme et cette pensée unique, toute puissante, surpuissante, enfin, qu'on va tout à coup régler toutes les angoisses du monde et toute la peur et toutes les crises, va se retourner contre nous. Hein. Donc nous, citoyens, nous allons voir nos libertés se réduire à peau de chagrin. Alors peut-être qu'on nous laissera la télévision et la voiture. Personnellement, je n'ai ni voiture ni télévision, donc forcément ça me pose un problème. Mais voilà. On est dans quelque chose qui avance à grands pas et qui risque de nous péter tous à la figure, je veux dire. Le cinéma américain est en train de retourner toutes les histoires des années 40, hein, de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. C'est très intéressant de voir ça. Alors, cinématographiquement, c'est pas très intéressant. Mais tout à coup, dans la culture populaire, on essaye quand même d'injecter quelque chose... Que ça passe, enfin, que l'histoire revienne chez nous, quoi. Qu'on se rende compte de la difficulté que c'est de traverser 40-45. Hein? C'est pas une partie de plaisir et ça va pas être une partie de plaisir. Ni pour les blancs, ni pour les noirs. Ni pour les jaunes, ni pour les oranges, enfin. On peut relire aussi Le Zéro et l'Infini d'Arthur Koestler. Voir qu'à un moment donné, il y a ce type fasciné par la Russie stalinienne qui cherche le paradis et qui se retrouve en fait dans les geôles et qui pense qu'il est arrivé dans le mauvais pays, enfin, et qu'il arrivera un jour dans ce communisme magnifique. Mais voilà, ça c'est Le Zéro et l'Infini, alors qu'en fait le communisme auquel il croit l'a mangé et l'a envoyé sous terre.
Je veux que tu t'en ailles de moi dans la paix et que je ne puisse point te regretter. Reste encore en moi. Apprends-moi à te comprendre. Parle-moi de ce que je ne connais pas. Chuchote à mes oreilles tes plus grands secrets et fais de moi ton ami.
Extrait de L'enfant clandestin, paru aux éditions La Nacelle, de David Tessomet, lu par Marie-Laure Franken.
Oui.
Vous avez arrêté la pratique?
J'ai arrêté la pratique. Je pense qu'aujourd'hui, je dois parler. J'ai vu beaucoup de choses. Beaucoup. Et je dois parler. Je parle avec les gestes, je parle avec les mots aussi. Ça dépend. Mais oui, ça m'est indispensable.
Vous êtes issu de cette université?
Je suis issu de cette université, oui. J'ai même travaillé. Mon plus long temps de travail, c'était au centre Chapelle-Auchan, donc, qui dépend de l'Université catholique de Louvain, au département adolescents et jeunes adultes du professeur Antoine Masson.
Au musée de Louvain-la-Neuve, jusqu'au fin janvier. Bienvenue. Exposition-événement, témoignage d'artistes sur la question migratoire. Avec Charlie Case, Anne Kéringent, Elisa de Jacquier, Martin van der Meel, Najib Sheradi, Manuela de Terravant, Sophie Soporosi et David Bartolomeo. Lecture texte, Marie-Laure Franken.
Parce que tu finiras un jour par me quitter. Et ce jour, tu laisseras le deuil dans le cœur de ceux à travers qui tu es venu en moi. Parce que moi, je n'ai en réalité jamais su profiter de ton doux souffle que tu me procurais nuit et jour.
Bienvenue. Partirai-je, Nico ? Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.